just wanna live. God, protect me. I just wanna live. I just wanna live.
Quelle voix, quelle chanson qui fait le tour du monde en ce moment à la vitesse de la capsule spatiale Crew Dragon. Il s'appelle Kedron Bryant. Comme, d'ailleurs, même chose, ça s'appelle de la même façon que Kobe Bryant. Chanteur de 12 ans, et sa vidéo, évidemment, fait le tour du monde. Jeune prodige, vous avez entendu cette voix incroyable. Sans instrument de musique, a cappella, il chante « I just want to live ».« Je veux simplement vivre ». Valérie Beaudoin, bonjour.
Bonjour, Paul.
Quelle chanson touchante, c'est incroyable, oui. Ce jeune homme qui interprète ça. D'ailleurs, c'est enregistré hein, dans des conditions très primaires. Hein. Il est face à un mur, là, il n'a pas été en studio pour ça. Vous avez entendu le reportage de Richard Châteauvert à New York, Valérie?
Oui.
New York n'est qu'une des dizaines de villes secouées depuis 5 jours, 5 nuits, et on s'attend à ce que ce mouvement de manifestations et d'émeutes se poursuive encore aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Hier, dans la journée, je sais que Paul, toi aussi, tu regardais ce qui se passait aux États-Unis. On voyait beaucoup de manifestations pacifiques, des gens qui étaient là en famille, des gens qui respectaient certaines règles, donc qui portaient des masques. Alors, on avait vraiment une ambiance de commémoration de vie de George Floyd pour lui rendre hommage à l'homme qu'il était. Un peu partout aux États-Unis, oui, ça s'est gâché en soirée, mais même au sein des manifestants, on avait de la frustration de voir qu'on concentrait le travail des journalistes, qu'on concentrait l'information autour de ces casses, parce que la plupart des manifestants qui vont là pour les bonnes raisons sont pas d'accord avec ces casses. Et hier, les journalistes faisaient le tour des différentes villes aux États-Unis. Il y a eu 75 villes environ où on a eu des manifestations où la police a dû intervenir. Et il y a un jeune homme qui a été interpellé par un journaliste de CNN à Minneapolis qui résume extrêmement bien la pensée de plusieurs manifestants. Je vous préviens, c'est une clip qui est un peu longue, mais c'est tellement bon. Et je vous expliquerai par la suite, là, peut-être, je vais traduire une bonne partie de ce qui est dit. Je vous laisse entendre ce jeune homme-là.
This is what I gotta say to the people who are destroying things. If you really feel like you have to take an opportunity, like if you're gonna be an opportunistic, something is wrong with you. If you cannot stand up and fight the good fight and you want to be a cheater and go ahead and taint what we're trying to do, something is wrong with you. Because what we're trying to do is stand up for the basic rights of humanity. And that's what we're trying to do, and we're trying to do in a peaceful way. We do not want to go through this anymore, okay? I want to be able to go in a white neighborhood and feel safe. I want to be able when a cop is driving behind me, I don't have to clench and be tense, okay? I want to be able just to be free and not have to think about every step I take. Because at the end of the day, being black is a crime. At the end of the day, being born black is a crime to them. And I don't understand why. Because we're all humans. And that's sickening.
Alors, Valérie, traduisez-nous là quelques extraits de cette déclaration qui fait évidemment non seulement du sens, mais qui est un véritable appel aux manifestants.
Oui, c'est un cri du cœur et j'en ai des frissons à entendre ce jeune homme-là. Il dit aux opportunistes, si vous profitez de ce moment-là pour faire de la case, eh bien, vous avez un problème parce qu'on n'est pas là pour ça. Il demande seulement des droits de base. Il dit, c'est assez. On veut pouvoir aller dans un quartier blanc et pas avoir peur. On veut pouvoir avoir un véhicule de police qui est derrière nous sans avoir peur, sans être stressé pour notre vie. Il dit que finalement, c'est un crime d'être né noir aux États-Unis et que finalement, ils sont tous humains. C'est tout ce qu'ils demandent. Et là, je vous ai présenté une partie de cet extrait-là, mais plus tard, il a reparlé au même jeune homme, il avait la même fougue. Et je crois vraiment que c'est important de présenter ça parce que ça démontre l'essence et la raison pourquoi de nombreux Afro-Américains, mais également de nombreuses autres personnes qui sont solidaires avec ce mouvement-là, manifestent actuellement aux États-Unis, au-delà de toute la casse qu'on peut voir.
Et il y a une dynamique qui commence à s'installer et on prévoit évidemment que ces manifestations et ces émeutes vont se poursuivre aujourd'hui. La dynamique a été bien expliquée par Richard. Ça commence en fin d'après-midi et ensuite se greffent des gens souvent masqués. Or, on est en pleine pandémie, donc il y a des manifestants qui sont masqués, mais d'autres cagoulés. Et on dit qu'il y a plusieurs manifestants émeutiers qui sont blancs, qui viennent se greffer à la manifestation et qui, eux, sont les casseurs, les émeutiers, ceux qui incendient tout sur les trottoirs, qui incendient des véhicules de police, et on les voit apparaître vers le début de la soirée, et ce sont des pratiquement des émeutiers professionnels. Alors imaginez-vous dans quel état, c'est le cas de le dire, on est en train de faire face à ces manifestations aujourd'hui.
Oui, je vous dirais que là, on a l'impression que l'Amérique est à feu et à sang en ce moment, parce qu'on voit là, ces images-là, les véhicules qui sont brûlés ou autres, et ça fait une escalade parce que oui, il y a ces casses en début de soirée, comme tu l'as bien dit, Paul, et après ça, les policiers viennent de plus en plus armés, de plus en plus nombreux. Alors, les manifestants qui sont là pour les bonnes raisons sont de plus en plus stressés, alors on a cette escalade de tension et ça aide pas les choses. Et des casseurs, il y en a toujours, malheureusement. On l'a vu ici dans le mouvement étudiant, on l'a vu aussi en France, on l'a vu partout où il y a vraiment des gens qui vont se greffer dans ces mouvements politique là, pour en profiter, faire de la casse.
Alors Valérie, parlons maintenant de l'aspect politique, parce que c'est très important. Ça risque d'être un été extrêmement chaud socialement aux États-Unis. D'abord, il y a tellement de gens qui sont en chômage, parce que, évidemment, faut pas l'oublier, en parallèle à tout ça, grande crise sanitaire historique, la pandémie, qui a fait que 41 millions d'Américains, vous vous rendez compte, ont fait une demande de chômage. Donc, on s'attend à un été brûlant de ce côté. Le président américain, hier, était au Cap Canaveral, en Floride, avec le vice-président Mike Pence. Ils ont assisté au lancement de la fusée Falcon 9 de SpaceX. Et il a encore jeté de l'huile sur le feu en disant que les policiers de Minneapolis qui avaient fui leur poste de police, qui étaient agressés et qu'on a brûlés finalement, étaient des froussards. Il a dit, il faut que des policiers soient encore plus durs. Et il a menacé d'avoir recours pas seulement à la garde nationale dans les États, mais directement à l'armée.
Oui, tout à fait. Alors, il s'est présenté, ça devait normalement être un moment, et je pense que tu vas être d'accord avec moi, Paul, d'unité aux États-Unis, d'avoir ce lancement de cette fusée-là. Il y a toujours ce sentiment patriotique lorsqu'il y a des missions vers l'espace. Là, c'était d'une initiative privée. Alors, normalement, on aurait eu un moment où on mettait les tensions de côté, un moment qui aurait fait du bien dans un contexte de crise du COVID-19 de voir ça hier aux États-Unis, mais ça a été seulement une pause dans une journée de crise. Et on a vu le président dans ses déclarations après, je dirais, être assez solennel, je dirais assez présidentiel dans ses déclarations. Il a rappelé qu'il était désolé pour la mort de George Floyd. Plusieurs diront c'est trop peu trop tard. Pourquoi est-ce que la veille, dans son point de presse, qu'on était au cœur des manifestations, il n'y a pas eu le même genre de déclaration? Alors, ce qu'il a dit, finalement, c'est qu'il ne respectait pas les gens qui faisaient de la casse, de la violence, qu'on était dans un état de droit aux États-Unis. Mais je vais quand même vous laisser entendre ce qu'il avait, un des extraits de ce qu'il a dit hier.
The rule of law and our independent system of justice. Every citizen in every community has the right to be safe in their workplace, safe in their homes, and safe in our city streets. This is the sacred right of all Americans that I am totally determined to defend and will defend.
Mais ça, c'est un discours.
Oui.
Si vous allez sur Twitter...
Oui, c'est autre chose.
C'est autre chose, vous l'avez remarqué. Il n'est pas la même personne sur Twitter.
Oui.
Notamment lorsqu'il dit, il faut être encore plus ferme et tout ça, cette menace d'envoyer l'armée, régler la situation. Et hier, il a téléphoné à la famille de George Floyd.
Oui. Oui, il a parlé. Le frère de George Floyd a dit, écoutez, j'ai même pas pu placer un mot.
Exact.
Qui avait trouvé ça vraiment désagréable comme appel parce qu'il pouvait pas justement lui dire, écoutez, on aurait besoin de ça. C'est ça qu'on demande. Et c'est ça qu'on désire avoir pour honorer la mémoire, ben, dans ce cas-ci, de son frère. Il dit que Joe Biden avait été plus à l'écoute, mais il y a ce mouvement-là qui dit d'un autre côté aussi à Joe Biden, écoutez, c'est pas parce qu'il se passe ça que vous allez nécessairement avoir notre vote. Il faut le gagner, ce vote-là, pour qu'on décide de sortir et d'aller voter en novembre pour quelqu'un qui va respecter les droits des Afro-Américains. Mais c'est très bien, Paul, de dire que... Moi, je dis toujours qu'il y a trois présidents Trump. Le président du télésouffleur, le président qui est présidentiel, justement, celui des rallyes politiques et celui qui est sur Twitter. Et sur Twitter, vraiment, on appelle plutôt à la force et on politise le débat en disant, écoutez, c'est de la faute aux démocrates, aux maires démocrates, aux gouverneurs démocrates qui sont pas assez fermes et qu'on pourrait avoir vraiment encore plus de forces armées. Et écoutez, imaginez l'escalade que ça va faire si on continue encore plusieurs nuits comme ça et qu'il y a de plus en plus de policiers, de plus en plus de garde nationale et l'escalade continue et se poursuit.
Ouais.
C'est vraiment pas demain la veille que ça va se terminer si c'est le cas.
Alors, merci beaucoup Valérie et nous aurons l'occasion très certainement de reparler de cette situation, de cette situation inattendue. Il a fallu cet événement pour enlever toute la polarisation de l'actualité américaine sur la pandémie.
Oui.
La pandémie est toujours là, soit dit en passant. Il y a plus de 100
toujours là, 1 700 000. Oui, j'allais dire 1 700 000 cas quand même là.
Et plus de 103 000 morts.
Exactement. Alors, faut pas l'oublier.
Faut pas l'oublier. Et évidemment, le nombre de chômeurs aux États-Unis. Je vous dis qu'on se prépare à un été d'enfer. Finalement, Valérie, c'est presque réjouissant de savoir que notre frontière est fermée au moins jusqu'au 21 juin. J'ai l'impression que c'est pas le
moi,
temps.
Moi, je dois m'y rendre au mois d'août. Alors, j'espère que c'est les esprits vont s'être calmés
ben voilà.
pour les différentes conventions
voilà.
au mois d'août. Mais vraiment, c'est pas gagné d'avance.
Exact. Il y a certainement pas pour le moment de tourisme à aller faire dans les grandes villes américaines.
Non.
Merci beaucoup, Valérie. Et à la semaine prochaine.